Écrit ici avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2 et le quatrième mercredi du mois, toujours à 17h30, toujours sur Jet FM 91.2.
Ou en podcast sur jetfm.fr.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour Abdelaziz Menebi.
Bonjour.
Bonjour Jean-Luc Hermeline.
Bonjour.
Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs, reçoit aujourd'hui Abdelaziz Menebi. Merci d'être avec nous en compagnie de Jean-Claude Hermeline.
Luc.
Jean-Luc. le premier était le bon, désolé. Pour un ouvrage autobiographique paru en septembre 2022 aux éditions Sidney Laurent et qui s'intitule « Crimes, mensonges, trahison et résistance ». Un titre qui dit tout, ou presque. Avant d'en venir à l'ouvrage, peut-être vous signaler aux gens qui nous écoutent que vous constaterez l'absence d'André aujourd'hui, qui est notre lecteur attitré. Voilà, André lève le pied. Donc, il n'y aura pas aujourd'hui de lecture comme à l'habitude. Mais bien évidemment, il y a les auteurs et il y aura des échanges sans souci. Avant peut-être d'aller sur le contenu de cette autobiographie, cette autobiographie est bien l'histoire de Abdelaziz Menebi, mais elle a été mise en mots par écrit par Jean-Luc Hermeline. Donc peut-être un mot pour que les gens comprennent votre collaboration, si ça ne vous ennuie pas, puisque vous êtes tous les deux présents.
Mmh. Vas-y, Aziz. Ça fait longtemps qu'on dit à Aziz de raconter son histoire. Ses enfants lui demandaient, sa famille lui demandait. Il fallait qu'il laisse une trace de sa lutte. Donc Aziz raconte et moi j'écris. Je transcris plutôt. Je suis le nègre de l'arabe.
D'accord. Merci beaucoup. Pour peut-être commencer, Aziz, une question qui nous a occupés hein, tout au long du livre. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses autour de toutes ces années passées dans les prisons marocaines, et puis de toute cette violence, voire de toute cette barbarie. Et en tout cas, il y a une question qui tient, en tout cas moi qui m'a tenue tout au long de la lecture, c'est justement qu'est-ce qui fait tenir ? C'est-à-dire que assez spontanément, dans ce type de situation, la résistance, on connaît bien, on est tous résistants, hein, on se sent bien comme ça. Là, par contre, il y avait quand même des questions sur qu'est-ce qui fait tenir face à tant de violence. Est-ce que des convictions sont suffisantes ? Alors, je ne sais pas si on peut répondre.
Écoutez, l'être humain est amené à résister à toutes les catastrophes, que ce soit naturelles, politique, sociale, économique, voilà, ce qui fait que ce que j'ai vécu, je l'ai vécu en tant que, enfin, avec ce sentiment d'être un être humain. Enfin, c'est formidable, mais en même temps, il a fallu vraiment s'accrocher parce que j'étais en face de. Enfin, d'êtres qui n'ont plus rien à voir avec l'être humain. Des monstres sans esprit, des tortionnaires, des gens qui se... Tu vois, c'est des sadiques, en fait, qui sont... Enfin, c'est pas dans leur bonheur en torturant, en humiliant, en écrasant, en détruisant le prisonnier.
Voilà. D'accord. C'est aussi la victoire de l'humanité, en fait. C'est un peu ce qu'on peut entendre.
Ben oui, c'est la victoire de l'humanité. Et là, dans nos, nos temps actuels est encore beaucoup plus appelé ou demandé ou ce qui se passe dans le monde avec, bon, vous êtes tous au courant de ce qui se passe en Palestine et à Gaza, c'est l'être humain dans ces parties-là, aussi dans d'autres parties hein, qui vivent d'autres catastrophes, est obligé de comprendre, d'ouvrir ses yeux sur la réalité, d'essayer de la, je sais pas moi, de la transformer pour qu'elle soit, qu'elle réponde un peu à cet instinct.
Merci beaucoup. Alors, dans Crimes, mensonges, trahison et résistance, c'est dans la deuxième partie que Abdelaziz Menebi fait un rappel des épisodes violents qui ont jalonné l'histoire du Maroc, et puis qu'il détaille ces années de militantisme et de prison. Dans la première partie, il brosse à grands traits sa vie, ses racines familiales, son enfance à Marrakech, des études de lettres à l'université de Rabat. Il devient un étudiant militant à l'UNEM, ce qui le conduit en prison, où il est torturé. Relâché, il se réfugie en France, où il vit désormais. Justement, je vais lire un petit passage, hein, parce qu'on n'a plus André, mais on va quand même lire un tout petit passage. Enfin, moi qui m'a... Voilà, qui m'a émue et qui m'amène à poser une question ensuite. Après des années de prison, officielle ou clandestine, après le sadisme des interrogatoires, tombant au hasard comme une loterie de l'enfer, après les infectes et minuscules gamelles, les parasites, la crasse, la violence, les maladies, la vie extérieure paraît incompréhensible. Il me faut apprivoiser ma nouvelle liberté, la réapprendre. Se réadapter, se réhabituer à dormir dans un bon lit, à manger une bonne nourriture, à se doucher quand on le souhaite, à s'habiller à sa convenance, à sortir quand on en a envie et même à communiquer avec les autres. Tout ce qui est routine pour eux s'avère bizarre, presque anormal. Donc c'était par rapport à ça, parce que... C'est une réflexion qu'on retrouve soit dans des livres, soit dans les évocations de personnes justement qui ont été enfermées, qui ont subi des traitements. Déjà la prison de toute manière en soi, c'est voilà. Comment faire, comment pour retrouver une vie ordinaire entre guillemets, parce que bon, voilà. Et comment renouer des relations avec les autres, quand on n'a pas parlé, quand on n'a pas eu d'informations, quand on a eu pendant des années, quoi.
Ben oui, c'est comme tout ce que j'ai vécu depuis mon enlèvement jusqu'à... au moins jusqu'à ma sortie du Maroc. Je sais pas comment... Tout ce que j'ai vécu, c'est-à-dire, et en particulier pendant la disparition, la torture, les interrogatoires, me paraît encore, jusqu'à aujourd'hui, quelque chose d'inconcevable, d'inacceptable, contraire à ce qu'on peut vivre en tant qu'être humain.
Et justement, mais l'après, comment on fait après ?
Alors c'est justement...
Pour parler, est-ce qu'on en parle de ces choses-là ? Est-ce que, je sais pas, la famille, les amis
Au début, c'était très difficile pour moi de parler de ça. J'étais comme prisonnier de cette situation où j'étais traité comme rien, c'est-à-dire j'étais traité je sais même pas quel terme utiliser, bref, ce qui fait que j'arrivais pas à parler de ça, j'arrivais pas à dire aux gens, voilà, voilà ce que j'ai vécu, voilà comment j'ai affronté, voilà comment j'ai résisté. Et cette situation, c'était après, parce que même l'après me paraissait aussi un peu bizarre, un peu abstrait, un peu, comment dirais-je, irréaliste d'être dehors, de respirer de l'air, de voir de la lumière, de toucher des gens, de marcher dans la rue. C'était tout était... J'étais, en étant libre, entre guillemets, j'étais encore prisonnier de ce que j'ai subi, parce que c'est tellement... C'est inconcevable, c'est quelque chose que j'arrivais... Je ne suis pas arrivé, et encore maintenant, à comment on peut traiter un être humain de la sorte. C'est-à-dire, c'est des monstres, c'est des sauvages, c'est inacceptable. Excuse-moi, vas-y.
Non, je voulais savoir justement le fait de raconter ça dans un livre, est-ce que ça t'a pas permis un peu d'exorciser tous ces souvenirs et de pouvoir les laisser derrière toi, finalement?
Oui, un peu, mais ces souvenirs m'habitent. Ils sont dans moi. C'est impossible de... C'est-à-dire, dans mon corps et dans ma mémoire, je vis chaque jour. Chaque jour, et je ne sais pas, je crois qu'on avait parlé de ça. Même ici, je t'avais dit, j'ai l'impression qu'ils vont venir m'arrêter, ils vont m'enlever... Au Maroc, alors là, n'en parlons pas, quand je suis au Maroc, je vois les flics partout, même dans les arbres. Je roule, tu vois, je vois des arbres, je dis, ah, c'est eux, ils vont m'arrêter, ils vont m'attraper, ils vont encore m'amener dans leur lieu de détention secrète, tu vois, c'est... J'arrive pas. C'est un peu comme pour mes amis qui sont morts sous la torture, ou ma sœur qui est morte après une grève de la faim. C'est impossible d'oublier ces gens. Impossible. Tu vois, c'est... Parce que c'est... Et pourtant, il y a de l'horreur dans ça, mais en même temps, tu vois, je peux pas... Je dis... Peut-être ça diminue un peu de ma souffrance et ma douleur et de ce qui me revient tous les jours dans mes rêves, dans ma vie quotidienne. Peut-être le jour où ils seront jugés, le jour où les êtres humains, les peuples, et en particulier le peuple marocain, sachent que ces gens-là ne mérite que justice soit faite. Mmh. C'est la seule façon d'exorciser un peu, tu vois.
Ouais.
Mais ça...
Donc le raconter, ça t'a pas vraiment aidé?
Non, ça me le raconter m'a mis...
Ça t'a remis dedans, au contraire.
Oui, voilà. Tu vois, Même sans le raconter, même tout seul, tu vois, je me lève le matin, je prends mon café,
c'est là.
Ce que j'ai vécu est là.
C'est là tout le temps, oui.
Le temps tourne et du coup, on va peut-être faire une pause musicale après cette émotion, quand même. Hein. Donc, Jean-Luc Hermeline a choisi une chanson de Charles Trenet, La folle complainte.
Les jours de repassage dans la maison qui dort, la bonne n'est pas sage, mais on la garde encore. On l'a trouvée hier soir derrière la porte de bois, avec une passoire se donnant de la joie. La barbe de grand-père a tout remis en ordre, mais la bonne en colère a bien failli le mordre. Il pleut sur les ardoises, il pleut sur la basse-cour, il pleut sur les framboises, il pleut sur mon amour. La revanche des orages a fait de la maison un tendre paysage pour les petits garçons qui brûlent d'impatience deux jours avant Noël et sans aucune méfiance acceptent tout pêle-mêle. La ville, la mort, les squares et les trains électriques, les larmes dans les gares guignolent et les coups de trique, les becs d'acétylène aux enfants assistés et le sourire d'Hélène par un beau soir d'été. Donnez-moi quatre planches pour me faire un cercueil. Il est tombé de la branche, le gentil écureuil. Je n'ai pas aimé ma mère, je n'ai pas aimé mon sort, je n'ai pas aimé la guerre, je n'ai pas aimé la mort. Je n'ai jamais su dire pourquoi j'étais distrait. Je n'ai pas su sourire à tel ou tel attrait. J'étais seul sur les routes, sans dire ni oui ni non. Mon âme s'est dissoute. Poussière était mon nom.
Vous êtes bien sur Jet FM 91.2. Nous sommes en compagnie de Abdelaziz Menabi pour son autobiographie « Crimes, mensonges, trahison et résistance » mise en mots par Jean-Luc Hermeline.
Aziz, dans le livre aussi, une présence omniprésente, si je peux me permettre, sont les femmes, la place des femmes, pour le meilleur et pour le pire, hein. Tu as évoqué ta sœur tout à l'heure. Il y a Michel, il y a ta mère, il y a Nathalie.
La grand-mère aussi.
Ta grand-mère.
Le rôle qu'elle a.
Voilà. Et donc, en fait, on avait un peu envie de t'entendre sur ce rôle de femme dans ta vie, à la fois dans ton parcours un peu résilient, si on peut dire ça. Ce que tu as envie d'en dire, en tout cas. Mais on perçoit cette présence forte.
Oui, je crois que ces femmes-là font ma moitié. Elles sont présentes un peu comme ce que j'ai vécu depuis que je suis né. En fait, parce que j'ai raconté mon histoire, ma naissance. Et pourtant, c'est quand je parle de ces femmes, je vois qu'elles ont souffert. Elles ont vécu des moments très, très durs. Que ça soit ma mère, ma grand-mère, Michel, Michou, la maman de mon fils Ismaël, Nathalie, et d'autres femmes qui étaient autour de moi, qui quand je les vois, quand je leur parle, quand je dis de temps en temps ce que j'ai vécu, je sens que... Même si ça reste un tout petit peu abstrait et irréaliste pour elle, elle souffre de ça. Il y a sans que moi, quand je parle autour de moi, en particulier avec des femmes, je sens qu'elles vivent la moitié de ce que j'ai vécu. Tu vois, c'est-à-dire cette moitié qui est dans mon corps, dans mon esprit. Et partagé. C'est vrai que j'ai pensé un peu à ça aussi à un moment où j'ai dit dans la société dans laquelle j'ai vécu, le Maroc, et même dans l'exil, j'ai vécu des moments de nuit, tu vois, des moments de sombre. Tu vois, j'ai vécu des moments où la réalité, la situation, les rapports étaient brouillés. Mais au même temps, tu vois, je me suis un peu libéré de ces nuits-là de ces brouillards-là, et j'ai tenté, j'ai essayé d'aller vers la vérité, un peu vers le... vers la... c'est pas vers la lumière, en fait, vers un peu l'histoire réelle, vraie. Et elles étaient là tout le temps, elles étaient là avec leur souffrance, avec leur gaieté, avec leur moment de soutien, leur moment de... Ces femmes-là ne m'ont jamais quitté, ne me quitteront jamais. Elles font partie de moi, je fais partie d'elles aussi. Comme Saïda, par exemple. C'est un crime et il est impardonnable, il est inaccessible. Je ne peux pas. Elle est dans ma tête, elle est dans ma mémoire, elle est dans mon esprit. Ma mère aussi, ce qu'elle a souffert avec nous. Mais Michel, la maman d'Isma, elle a souffert pendant toute la période de ma disparition, mon arrestation. Tu vois, Nathalie a souffert des résultats de ça. C'est-à-dire les résultats de ma disparition, de la torture, etc. Parce que quand j'ai rencontré, j'étais déjà complètement malade de partout. Toutes les maladies, elle a vécu avec moi, toutes les maladies, les opérations chirurgicales, les hospitalisations, et Michaud, elle a souffert, elle était toute seule au Maroc, c'est disparaître, ils l'ont expulsée du Maroc, parce que une fois ici, bon, il a fallu qu'elle m'accompagne dans les hôpitaux. Ce qui fait, c'est des femmes qui ont partagé beaucoup, beaucoup, ma souffrance et qui m'ont soutenu, mais d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire, des fois, je dis, ce qu'elle mérite, ses souffrances à cause de moi. Toi, c'est un peu ma vie. Elle est...
Merci, Aziz. Peut-être sur le registre, tu as parlé des femmes, tu as cité ton fils Ismaël, tu as deux autres garçons, hein, t'en parles. Peut-être juste aussi par rapport à eux, cette histoire-là. Alors, on entend ou on lit Ismaël dans le livre. Hein, il explique son retour au Maroc, ce qu'il voit de son père et tout ça. Tes enfants qui sont un peu plus jeunes, les deux autres. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses autour de ça qui peuvent se partager? Ou est-ce que ça fait partie de l'histoire familiale, mais je dirais qu'il n'y a pas trop de mots à mettre là-dessus
Oui, je crois que dès le départ, que ce soit avec Ismaël ou avec Ilyas ou Yanis, depuis le moment où j'ai compris que je peux leur parler, je peux leur dire ce que j'ai vécu, etc., je l'ai fait, j'ai jamais hésité, tu vois, il fallait qu'ils connaissent un peu l'histoire de leur père, tu vois, pour eux. Et c'est vrai que c'était un peu lourd pour eux, mais je sentais, tu vois, les trois, tu vois, c'est-à-dire cette franchise, parce qu'il y a des choses, est-ce que vraiment je peux leur en parler ou pas, est-ce que je peux leur expliquer, est-ce qu'ils vont comprendre, etc. C'était extraordinaire, ils ont... Tu vois, c'est des enfants, ils ont grandi petit à petit, mais ils ont grandi avec cette intelligence, tu vois, de saisir ce que je leur dis, de comprendre, de tu vois, et aussi de me soutenir, dans leurs mots, dans leur regard, leur tendresse, ils étaient un peu, je faisais partie de moi, je faisais partie d'eux.
Mais est-ce que c'est pas non plus justement leur faire confiance justement à leur intelligence, à leur amour sans doute pour leur père et éviter que, comme ça arrive dans certains cas, qu'ils retrouvent ça des années plus tard, ah bah voilà, mon père a vécu ça, je savais pas, pourquoi il m'a pas dit, enfin bon, laisser une trace, enfin, et le livre c'est un moyen aussi de...
Oui, c'est que... Enfin, heureusement que j'ai parlé des... cette lumière que j'ai eue dans ma tête, c'est que c'est des enfants, je les aimais beaucoup, bien sûr, je les soutenais, j'avais confiance en eux, tu vois, j'ai jamais essayé de leur cacher quoi que ce soit. C'était vraiment... C'est ce qui fait que... Et je sentais que c'est de cette sorte-là que je peux leur donner aussi les outils ou les armes pour affronter ce monde, pour le comprendre et l'affronter et le dénoncer, parce que ils en parlent sans leur dire quoi que ce soit. C'est eux qui en parlent, qui parlent de leur père, de ce qu'il a vécu, de ce système marocain moyenâgeux qui m'a fait subir ça. Et les trois, je les considère comme des enfants de la commune, c'est des révolutionnaires, c'est extraordinaire, les trois. Tu vois, ils ont un esprit, mais critique, très, très fin, tu vois. Ils ont compris plein de choses autour d'eux, pas que sur le Maroc ou la France, mais un peu au niveau... C'est-à-dire, je considère qu'ils ont un esprit, je veux dire, un peu scientifique.
Éclairé.
Éclairé, voilà. Et ça, c'est...
Alors, justement, pour finir, parce que, voilà, on arrive à la fin. Donc, tu as choisi une chanson de l'album Touche d'espoir du groupe Assassin, intitulée « Trop de choses à dire », c'est peut-être pas anodin comme titre, et interprétée par Tahiro. Donc, je sais pas, tu veux dire quelque chose juste avant qu'on passe le... Non, enfin, par ton fils, quoi, en fait.
Ben voilà, je crois que...
C'est Ismaël, c'est celui-ci.
Ismaël, c'est Tahiro. Et Ilias, il le suit dans le même chemin aussi. C'est un chanteur, compositeur, etc. Yanis, c'est plutôt un intellectuel, comment dirais-je, assez avéré, mais il n'a pas choisi...
Les voies artistiques.
Oui, voilà. Quand j'entends les chansons d'Isma ou d'Ilias, ou même des fois des trucs, enfin des messages qu'envoie Yanis, ça me réconforte, tu vois. C'est un soutien extraordinaire qu'il parle de cette expérience. Elle est de moi, c'est comme ça. Mais Assassin est là, c'est quand même ça pèse, ça pèse dans mon rapport et mon amour pour Isma. Tu vois, Ilias, il a fait aussi des chansons extraordinaires où il parle aussi de ça, du monde et des souffrances des peuples. Et je suis dedans.
Bon, ouais. Allez, on est obligé là.
Un espoir pour le changement.
On milite.
Taro, squat, racha, highlight, one.
Non, j'ai pas le choix, je suis reste militant. Même si je voulais changer d'état, c'est sa danse. On ne peut pas rester là, les bras ballants. Squat, Taro, élément irritant. Pas le choix, je suis reste militant. Même si je voulais changer d'état, c'est sa danse. On ne peut pas rester là, les bras ballants. Squat, Taro.
Sois fort, bloc, bloc, mon style débloque. La censure est présente quand mon style est fort. Fort, fort, la politique suffoque. Libérer Léon Apprentier. Ma musique milite pour cet accusé. Libérer Eddie Hatcher. Pour ce genre de prisonnier, on ne lâchera pas l'affaire. Ma musique milite pour sauver Moumia. Alerter l'opinion publique, on y va. Le juste à bord est un fâcheux embrouillard.
Assassin est là. Non, j'ai pas le choix, je suis resté militant. Même si je voulais changer d'état, j'ai sa danse. Squat, Taïro, élément irritant, pas de joie, je suis reste militant.